תודה לבעלי אכסניה, מרסי pour l'accueil une fois de plus. Sarah Nana est dans la famille de mes chers amis, la famille Lévi. Shabbat Baruch Be'ezrat Hashem Yevarech et Kulchem. Amen Ken Yirtzeh. Aujourd'hui, Be'ezrat Hashem, je voudrais parler de Hanouka. Et essayer de comprendre ce qui se passe dans ce secteur de temps, inclus dans le mois de Kislev, bien entendu, mais qui chevauche aussi le mois de Tevet. Nous savons que le temps est l'une des facettes de la création du monde, c'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, l'infini béni soit-il, lorsqu'il crée le monde, il crée en réalité trois degrés essentiels, le temps, l'espace et les êtres. Et le temps, comme l'espace et comme les êtres, sont en réalité des filtres à trois niveaux différents, des filtres qui font passer la lumière de l'infini dans le monde fini, dans le monde créé, en traversant ce prisme, une fois du temps, une fois de l'espace et une fois de l'homme. Donc chacun de nous, chaque lieu et chaque temps révèle le même infini, béni soit-il, avec un angle différent. Ce qui fait qu'en réalité, toute la vie révèle à différents degrés de dévoilement la même force infinie. Dans ce système de temps temporel, Akadosh Baruch Hu donc a fait aussi des différents. C'est-à-dire que chaque temps a sa spécificité. C'est un autre filtre. Et donc, selon les temps, il y a des énergies qui se dévoilent dans le monde. Mais en même temps que ces énergies qui se dévoilent dans le monde, il y a toujours associé une force contraire. C'est-à-dire contraire à cette énergie. Pourquoi ? Parce que le monde a été créé de cette manière-là, je ne rentre pas maintenant dans le pourquoi, mais la volonté divine était de créer en réalité tout par couple. Un degré qui contrarie l'autre, mais en réalité qui ne le contrarie pas gratuitement, je vais dire qui le pousse à dévoiler ce qu'il est. De la même manière que l'homme et la femme est considérée comme Ezer Kenegdo, en hébreu, c'est contre lui apparemment. Mais en réalité, c'est celle qui lui permet de dévoiler certaines choses qu'il n'aurait pas dévoilées sans elle. Donc même la force, entre guillemets, négative, qui apparaît en même temps que le potentiel du temps, bien cette force négative, qui n'en est pas en réalité négative, elle est là pour servir de... Comment on dit ce produit pour dévoiler la photo ? Un révélateur, voilà. C'est un acide révélateur du potentiel. Et sans ce noir, entre guillemets, la lumière ne peut pas se dévoiler. Et le Zohar donc va conclure, « Let nehora el amigo chashucha ». On ne peut pas avoir une lumière s'il n'y a pas d'ombre à côté. S'il n'y a pas de noir face. Et donc, la création, elle est faite de cette manière, « Vayehi erev, vayehi boker yom echad ». C'est-à-dire, une réalité, une entité, c'est fait de « erev » et de « boker ». Et dans ce rythme-là, dans cet ordre-là, c'est-à-dire que le noir précède la lumière dans notre monde. Parce que nous commençons par le noir, qui est en réalité l'oubli, qui est en réalité l'éloignement, pour nous rapprocher petit à petit de la lumière initiale. Si on avait les yeux du divin, on verrait les choses à l'envers. Chez lui, on va du jour vers la nuit. Comme c'est le cas au Beth Amikdash. Tout ce qui se passe au Beth Amikdash, c'est Boker ad Erev, Miyom ad Laila. Alors que dans notre monde, ça vient du noir vers la lumière. Donc à chaque fois qu'on doit atteindre un degré de lumière quelconque, on est obligé de passer par un degré de noir. Et si je sais profiter de ce noir, entre guillemets, eh bien la lumière se cache à l'intérieur du noir. C'est pas que c'est un degré à traverser et puis après il y a la lumière. La lumière est dans le noir. Et dans ce noir, je dois en réalité déceler les étincelles qui se cachent. C'est le secret de l'exil, par exemple, tous les exils dans lesquels nous étions. C'est le secret de toutes les maladies. C'est le secret de tous les maux, M-A-U-X, qui en réalité permettent à l'homme un degré d'élévation qu'il n'aurait pas activé sans ce degré-là. Même Yaakov, quand il veut, entre guillemets, se reposer, on lui dit non, tu ne peux pas te reposer, tu es obligé de continuer, tzadikim en la menoucha, tu n'as pas le droit, entre guillemets, au repos, parce que justement nous sommes dans un monde où il faut activer le phénomène divin pour le dévoiler ici-bas, et le temps est compté. Pour parler de Hanouka, on peut commencer à disserter, c'est énorme, qu'il y a à dire, mais j'ai choisi cette fois-ci de traiter de ce petit passage que les sages ont placé dans une Gemara, dans la Gemara de Shabbat. Il n'y a pas une Gemara pour Hanouka. Les sages ont inséré l'histoire de Hanouka dans le traité de Shabbat. D'accord ? Pour Purim, par exemple, il y a une Gemara qui s'appelle Megillah. Yom HaKippurim, il y a une Gemara qui s'appelle Yoma. Mais Hanouka n'a pas de Gemara spécifique. C'est une question aussi, pourquoi pas? Mais toujours est-il que les sages ont pensé insérer ça dans le traité de Shabbat, où là où on traite de l'allumage des veilleuses du Shabbat. Étant donné qu'on traite de l'allumage du Shabbat, eh bien on dit les mèches qui sont interdites à Shabbat, qu'elles sont autorisées à Hanouka. Et là-bas, les sages, comme par hasard, ouvrent une parenthèse et nous disent la chose suivante. Alors, je vous cite cette Gemara, je n'ai pas fait des photocopies, mais vous pouvez la retrouver, c'est dans le traité de Shabbat, donc à la page 21, Kaf Aleph, deuxième page, bête. La Gemara pose la question, Mai Hanouka, c'est en araméen, c'est-à-dire, pourquoi Hanouka? On ne parle pas de fête. On parle d'un sujet. On ne sait pas encore ce que c'est. La Gemara ne dit pas pourquoi nous fêtons Hanouka. Non. Pourquoi Hanouka? Qu'est-ce que Hanouka? Et la réponse que la Gemara donne, vous allez voir apparemment aucun rapport avec la question. Elle nous dit, Desanu Rabbanan, parce que les sages nous ont enseigné, Bekafhe Bekislev, le 25 Kislev, Yomé de Hanouka, les jours de Hanouka, Tmania Inun, sont au chiffre, au nombre de 8. Dela Lemispedbeho, on n'a pas le droit pendant ces jours-là, ni de faire des oraisons funèbres, ou de l'oléita anot behon, et on n'a pas le droit de se mortifier. Voilà ce que la Gemara raconte en premier degré. Après, elle va commencer à raconter autre chose, on va y arriver tout à l'heure. Pour l'instant, moi je vous pose une question, d'après ce que je viens de dire, et c'est dommage que vous n'avez pas le texte face à vous, écoutez bien ce que la Gemara dit, et dites-moi si vous avez un problème. Bekafhe Bekislev, Yomé de Hanouka Tmania Inun. Le 25 Kislev sont les jours de Hanouka, 8 jours ils sont. Le problème, il est clair. Il n'y a pas marqué à partir du 25 Kislev, on compte 8 jours de Hanouka. Non, les sages savent écrire en hébreu. Bekafhe Bekislev. Le jour du 25 qui se lève, 8 jours de Hanouka. Ce qui veut dire que les sages ont une idée derrière la tête et ils nous disent quelque chose qui est déjà dans le texte, mais qu'il faut savoir lire, il faut savoir décoder. Il ne faut pas passer rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 25 du mois de Kislev contient en lui 8 jours. C'est ça que les sages nous disent. Ils nous disent pas s'il y a 8 jours de fête. Ils nous disent que le jour même, un jour qui est limité dans le temps, puisqu'il est désignable, puisqu'il est dans une mesure de temps, c'est 24 heures, eh bien ce 25 du mois de Kislev contient en lui les 8 jours de Hanouka. Vous savez très bien que le chiffre 8, c'est un chiffre qui désigne l'au-delà. Moralité, s'il désigne la Neshama, Shmoné, c'est les mêmes lettres que Neshama, c'est les mêmes lettres que Shemen, l'huile. Donc tout ce qui a trait à Hanouka, tout ce qui touche Hanouka, c'est le chiffre 8. D'ailleurs, c'est la seule fête qui dure 8 jours. Il n'y a pas de fête qui dure 8 jours. Ça n'existe pas. Comment est-ce que tu peux traiter du chiffre 8 qui est de l'ordre de l'infini dans un monde fini? Ça veut dire qu'en réalité, cette fête n'appartient pas au monde d'en bas. C'est une intervention de l'au-delà dans notre temps. Et non seulement c'est une intervention dans notre temps, mais en plus de ça, le premier jour de Hanouka, le 25 qui se lève, contient en lui déjà l'infini, puisqu'il est déjà lui-même les 8 jours repliés en un. Je dois comprendre que ce temps-là, puisque nous avons parlé tout à l'heure de notion de temps, il y a un jour dans l'année qui est en réalité un axe qui relie l'infini au fini. Et c'est au moment où vous allez allumer la première bougie de Hanouka. Ça veut dire que le hors-nature va s'habiller dans la nature dès la première bougie. Et d'ailleurs, les autres bougies ne sont que le déploiement de ce qui se passe dans cette première bougie, dans cette première journée. Puisque tous les 8 jours, donc l'infini, 8 égale des milliards de milliards sans l'infini, sans mesurer. Mais tout ça s'est replié dans une seule journée. Comme les sages nous le disent, ils nous indiquent dans la Gemara, il faut savoir lire entre les lignes et être précis dans votre lecture. Et quand vous citez un texte de nos sages, il faut le citer exactement parce que justement, tout le secret s'y trouve. Il a fait. Mais lui-même ne dure pas 8 jours dans ce monde. Il représente ce degré 8, Zachon. On peut dire aussi Shavuot, puisqu'il est comme Shmini par rapport à Pessah. 7 fois 7, plus 1. Zachon, la même chose. C'est-à-dire, ce sont des jours qui font le lien. Mais les sages ici nous disent clairement, Bekafé Bekislev, Shmona Yamim. Le jour 1 contient 8. Et en réalité, c'est une fête, c'est un degré qui nous vient de l'au-delà. En réalité, quand j'allume cette lumière de Hanouka, quelle est la nature de la flamme que je suis en train de toucher? Ce n'est pas quelque chose de ce monde. Et j'ai une preuve. Immédiatement après avoir allumé, je retire et je me dis, Hanerot halalu kodesh hem. Vous savez ce que c'est kodesh? Pas kadosh. Kadosh, c'est subir le Kodesh. Il y a le Kodesh et la Kdusha. Pas pareil. Donc si je dis à Nerot Halalu Kodeshem, pas Kdoshimhem, je suis en train de dire que ces lumières sont en réalité l'infini qui se dévoile dans le fini. Alors que je viens de les acheter 10 minutes avant à la Makolet. Ve'en la nourechut leishtamesh bahem. Ela lir otam bilvad. Je ne peux même pas les utiliser parce qu'en réalité, c'est de l'ordre de quelque chose que je ne peux pas encore, dans mon monde, appréhender, toucher, comprendre réellement. Mais, pourquoi je les allume? L'irotam, je dois me servir de cette lumière pour éclairer quelque chose dans ma vie et on va tout de suite y arriver. Ça veut dire que ce degré du 25 du mois de Kislev, qui représente en réalité une force féminine. Pourquoi ? Parce que seule la femme peut révéler. Donc moralité, le nom de cette fête qui commence à ce moment-là est au féminin, Hanouka. Alors que le masculin de Hanouka, c'est Chinuch. C'est vrai. L'éducation s'y trouve. Mais en réalité, c'est une femme. C'est-à-dire, c'est une éducation qui peut se dévoiler parce qu'elle est féminine. Et chaque fois que nous sommes face à ces lettres Kaf He, 25, et nous savons qu'en réalité, nous sommes face à la Shrina, à la présence divine. Les Kohanim bénissent le peuple d'Israël. Ko, Kaf He. Ko Tomar el Bnei Israël. Ko Tevarchu el Bnei Israël. À chaque fois que les lettres Kaf et He sont là, c'est en réalité synonyme de dévoilement de Dieu. Vous savez que la lettre féminine par excellence, c'est la lettre He. Or, dans le nom de Dieu, il y en a deux. C'est-à-dire que le nom de Dieu est fabriqué, composé de deux lettres féminines et de deux lettres masculines, le Yud et le Vav. Il y a un Yud, un He, un Vav et un autre He. Les sages nous disent dans la Kabbalah que les deux lettres He du tétragramme, du nom d'Hachem, sont en réalité deux femmes. Une qui se trouve dans l'au-delà, elle est de l'ordre du 8, et l'autre, la dernière lettre He, c'est celle qui se dévoile dans notre monde. Et pourquoi elles sont jumelles, He, He? Mais parce que ce monde doit être la réplique du monde d'en haut, c'est-à-dire des idéaux. Il ne faut pas tricher. Si ce monde est dévoyé, est sorti de la voie par rapport aux valeurs intérieures, il y a un problème. Qui est censé amener, acheminer la lettre He qui représente l'au-delà dans notre monde qui est la dernière lettre He? Eh bien, le Vav qui est entre les deux, dans le tétragramme Yud He, Vav He. Donc le Vav se trouve entre deux lettres He. Et s'il fait le travail comme il faut, eh bien il multiplie en réalité He, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, c'est 5, multiplié par 5, 25, nous sommes dans le Kaf He. Ça veut dire que le jour de Hanouka, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que la lettre Vav, qui est en l'occurrence l'homme, doit faire en sorte de prendre la lettre He qui représente le monde des valeurs divines et tout simplement les traduire dans des valeurs terrestres. Amener en réalité le Olam Haba dans le Olam Hazé. Cette lettre Vav, tout à l'heure je vous ai dit qu'on parlait au niveau du temps. Au niveau humain, c'est Yaakov. Yaakov est capable, donc c'est notre père, de traduire les valeurs divines, les idéaux, ce que vous appelez la Jérusalem d'en haut par exemple, en Jérusalem d'en bas. C'est-à-dire les valeurs divines en réalité. Donc Yaakov, forcément, s'est marié avec deux femmes. Donc la première lettre V qui est avant le Vav représente les A, et la deuxième lettre H qui est après le Vav représente Rachel. Et Yaakov fait le lien sans cesse entre les A et Rachel. Il vit entre deux femmes, il dévoile les A dans Rachel. Il dévoile les valeurs d'en haut dans le monde d'en bas. Ça c'est le rôle de Yaakov. C'est pas par hasard qu'il a rêvé de cette fameuse échelle. Parce que l'échelle, en réalité, c'est lui. Il a rêvé de lui-même, de ce qu'il fait, de ce qu'il est censé faire durant son histoire, c'est-à-dire nous, ses enfants, nous sommes censés être cette échelle qui relie les valeurs célestes dans le monde d'en bas, en tant que nation. C'est ce que nous sommes venus faire dans ce monde. Le problème, c'est que nous sommes la mémoire de cela, le souvenir de cela, actif, zikaron. Mais, je vous ai dit tout à l'heure qu'à chaque fois qu'il y a une lumière, un potentiel qui arrive, il y a le contraire qui vient pour contrer ce lien entre les mondes. Eh bien, le contraire de cette lumière que je fais venir du haut vers le bas, c'est le noir. Or, en hébreu, le noir, rocher, ce sont les mêmes lettres que shichecha, l'oubli. C'est-à-dire l'inverse de la mémoire, l'inverse du souvenir. Moralité, au moment où je dois allumer une lumière et amener les valeurs divines dans ce monde, vient en même temps, dans le même papier cadeau, la force contraire qui est l'oubli. Cet oubli en hébreu, je vous fais un peu d'oulpan, on ne dit pas seulement shichecha. Shichecha, on l'a dit tout à l'heure, c'est chosher, c'est les mêmes lettres. Mais il y a une formulation de l'oubli beaucoup plus belle en hébreu, on l'appelle neshia. Je sais que vous ne savez pas. Neshia, c'est-à-dire l'oubli. Comment s'appelle le membre, le nerf, que l'ange de Esav a frappé Yaakov, Gid Hanashé, c'est-à-dire il a frappé dans le nerf de l'oubli. Autrement dit, ce fameux combat que nous allons lire dans la paracha de la semaine, de Vaishlach, entre Yaakov et l'ange pendant cette fameuse nuit, la nuit de son alia, n'oubliez pas, c'était à l'aéroport, ce combat. Quand il rentre en Eretz Israël, eh bien, l'ange de Esav, pendant toute la nuit, combat Yaakov. Donc il y a ici un combat pour essayer de toucher en réalité Yaakov dans sa mémoire, dans son souvenir, et faire en sorte que Yaakov oublie, que le peuple d'Israël oublie le rôle qu'il doit jouer dans l'histoire humaine. Et quand on oublie ce rôle-là, eh bien c'est fini. On peut être remplacé par quelqu'un d'autre. Parce qu'en réalité, on ne sert plus à rien, Chas v'Shalom. Donc, moralité, nous avons toujours un degré, comme un système intérieur, qui nous réveille et qui nous empêche de nous endormir et de tomber dans l'oubli. C'est pour ça que d'ailleurs, Yaakov, quand il quitte la terre d'Israël, ce qu'on a lu dans la paracha de cette semaine, il est sorti d'où en réalité ? Vayetse Yaakov mi Be'er Sheva. Il est sorti de Be'er Sheva. Pouvez-vous me traduire textuellement ce que veut dire le mot Be'er Sheva? Le puits des sept. Donc si c'est le puits des sept, c'est quel chiffre? Le 8. C'est la source des sept. Be'er Sheva, c'est le puits. C'est la source des sept. Donc lui-même, il est 8. Donc Yaakov est sorti d'où? Du 8 pour descendre dans le 7. Et s'il sort du 8 pour rentrer dans le 7, mais qu'il oublie les valeurs du 8, Shmoné, Neshama, Shemen, eh bien, Chas v'Shalom, il tombe dans l'oubli dans ce monde. Le monde du 7, sans le lien avec le monde de l'au-delà du 8, peut faire tomber l'homme et la femme et le peuple Chas v'Shalom dans un oubli, dans une torpeur, dans une nuit. Et ce n'est pas par hasard que dès qu'il quitte, le texte nous dit « Vayetse Yaakov Iber Sheva Vayelech » Où est-ce qu'il est allé ?« Charana » Qu'est-ce que c'est Charana? Vous croyez que c'est le nom d'un endroit seulement? Vous savez bien que toute la Torah est codifiée. Le Zohar nous dit, vous savez ce que c'est Charan? Charan veut dire la colère divine. Autrement dit, quand tu sors de la source des sept et que tu quittes cette source des sept, tu descends immédiatement Charon Afashem dans la colère divine, ce qu'on appelle Charan. Et pour ne pas qu'on oublie qu'en réalité on va de la lumière donc vers le noir, le texte continue et nous dit Vaifga Bamakom Vayalen Sham ki Bahashemesh. Le soleil est en train de se coucher immédiatement. C'est bizarre. Et qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, si c'était l'après-midi, le matin, ou le soir, ou quoi? Le texte me dit que dès que tu sors de la source des sept, immédiatement le soleil se couche, c'est-à-dire tu es dans le noir. Et les sages n'ont rien trouvé de mieux de nous raconter dans la Gemara que Yaakov a instauré la prière de Arvit. Encore une fois, qu'est-ce que j'en ai à faire? Écoutez bien, Moraï Verabotaï, c'est une leçon de vie. Pourquoi Yaakov? Qu'est-ce que les sages viennent nous raconter? Que Yaakov a instauré une prière? C'est ça l'importance? Non. Les sages nous disent que Yaakov, il fallait qu'il trouve un moyen de garder le contact avec la lumière, même pendant la nuit, pendant le noir. Donc instaurer Arvit, c'est pas instaurer une prière religieuse. C'est savoir garder le contact avec l'infini dans les moments sombres de notre vie. Comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire que chacun de nous, quand vous êtes dans une période sombre de votre vie, dans une période noire, que vous êtes sorti de la source pour descendre dans un monde où tout est à l'envers, gardez le lien, instaurez la prière de Erev. Erev en hébreu veut dire un mélange, mais en orav, tout est mélangé, je ne vois plus clair. C'est là où tu dois garder le lien. Donc la tfila de Arvit, ce n'est pas un acte religieux. C'est garder le lien avec l'infini pendant que tu ne vois rien. Et c'est Yaakov qui nous l'offre. Extraordinaire. Ça veut dire qu'en réalité, Yaakov est en train de nous donner une leçon. Qu'au moment où il est dans un danger, au moment où il quitte cette lumière, il faut vite garder quelque chose. Et qu'est-ce qu'il garde? La Torah continue. Vayachalom. Le rêve. Je continue. Quand tu sors de la terre d'Israël, quand tu sors de la lumière et que tu vas en exil, même si cet exil dure 2000 ans, ne t'arrête jamais de rêver. C'est ça que Yaakov fait immédiatement. Vayachalom. Parce que le rêve, pour vous en français, c'est rêver. Mais en hébreu, le mot chalom veut dire guérison, harslama. C'est-à-dire, tu guéris de la maladie de l'exil grâce au fait que tu continues à rêver même quand tu es en exil. À quoi? À revenir sur ta terre. Ceux qui ont fini de rêver, ceux qui se sont arrêtés de rêver, je ne parle pas au niveau du sommeil, ceux qui n'ont plus d'idéaux dans leur vie, qui ne rêvent plus dans leur vie à quelque chose, ils sont morts. Et ça, c'est le chalom de Yaakov, qui est d'ailleurs la même racine que le mot machala, c'est-à-dire la maladie. Et la même chose que hachlama, la guérison. Tout ça, c'est dans le cholam, dans le chalom. Et d'ailleurs, Akadosh Baruch Hu nous le dit, quand on revient en Eretz Israël, c'est parce qu'on a rêvé. Beshuv Hashem et Shivat Sion, haïnu kecholmim. C'est grâce à ça qu'on est revenu à Sion. C'est parce qu'on ne s'est jamais arrêté de rêver. Et un jour, ce rêve se réalise, parce qu'en réalité, c'est une prophétie, comme disent les sages. Et quel est le rêve? Quelle est la nature du rêve? Une échelle. Qui fait quoi? Qui va vers le ciel, sans jamais l'atteindre. Il n'y a pas marqué que l'échelle touchait le ciel. Ça, c'est en français. Le texte en hébreu nous dit « Soulam mutsav arta verosho magia hashamaima ». Quand tu dis « à la fin d'un mot, ça veut dire que tu vas vers. Par exemple, « Ani nosea Yerushalayma ». Donc, je vais vers Jérusalem. Donc, l'échelle allait vers le ciel et en même temps, elle allait vers la terre. C'est-à-dire que c'est une échelle expansive qui monte sans arrêt vers l'infini et qui descend sans arrêt vers le fini. Et tout le but, c'est de monter, voir les idéaux qui se trouvent en haut de cette échelle pour les ramener en bas dans notre monde. C'est pour ça que les anges montaient d'abord et descendaient après, pour prouver que la Torah n'est pas un livre de philosophie. Car si c'était un livre de philosophie, les anges n'auraient que monté. Ne seraient que monté. Monter, monter, monter. Le but du judaïsme, c'est de monter pour descendre. C'est-à-dire monter pour voir les valeurs qui s'y cachent en haut, pour les traduire dans notre monde terrestre.
Yaakov, il a eu peur.
Yaakov, dans l'un des Midrashim, avait peur de monter. Pourquoi? Parce qu'il voyait que tous ceux qui montaient devaient descendre. Mais en réalité, c'était ça le but. C'était ça le but. Il fallait qu'il descende. Donc, moralité, nous sommes ici face à une situation extraordinaire. Et quand il se lève, quand il se réveille de son rêve, en réalité, il vient de recevoir la Torah. C'est l'histoire du peuple d'Israël qui reçoit la Torah au niveau de Yaakov. Où est-ce que je sais? Parce qu'il le dit. Alors si vous lisez en français, Va'anochi lo yadati, et moi, je ne savais pas que c'était un endroit qui faisait le lien entre le haut et le bas. Mais ce n'est pas ce que les sages nous disent. Dans la Kabbalah, on nous dit qu'en réalité, il a dit les deux premières paroles des 10 commandements. Anochi, lo yelecha Elohim acheri, yadati. C'est pas anochi lo yadati. Anochi et lo yelecha yadati. C'est-à-dire, je viens de recevoir la Torah. C'est-à-dire, j'ai préparé le don de la Torah pour mes enfants après moi. Moralité, où est-ce que la Torah descend dans ce monde? Là-bas, à l'endroit où il a rêvé. Où est cet endroit? Even Ashtia, Hara Moria, la montagne du parfum. Moria veut dire le parfum de Dieu. Là où on parfume en réalité ce monde des valeurs d'en haut. C'est pour ça qu'il est tellement difficile de garder le lien avec ce lieu. Tout ce que je suis en train de vous dire, vous êtes avec moi ou ça, ça j'ai l'impression que vous êtes dans une hypnose éricksonienne. D'accord. Alors, d'accord, ça c'est le secret. Ça veut dire que je reviens maintenant. Le 25 du mois de Kislev est en réalité 5 x 5. Donc un degré qui relie les deux mondes. D'ailleurs, on en a rencontré un qui fait exactement la même chose il y a quelques semaines. Meharat Hamachpela. Comment vous écrivez Hamachpela? He Machapel He. C'est-à-dire un He qui est multiplié par un autre He. Donc Meharat Hamachpela, c'est aussi le lien des mondes. Donc le premier He, Kafoul, Machpel, He, Ha, Machpel, Ha. C'est la même chose, en hébreu c'est facile, tout est logique, mais il faut savoir lire et décoder. Et c'est pourquoi celui qui arrive dans sa vie à faire ce lien, à garder cette échelle de valeur, c'est lui l'échelle, c'est nous l'échelle. Eh bien, celui-là, celle-là, a en lui les deux forces simultanément. Le Olam Haba, et le Olam Hazé. Le Olam Abba ne traduisait surtout pas le monde futur. Attention, c'est le monde qui vient, qui est tout le temps là, mais seulement moi j'ai une difficulté pour accéder à ce monde-là, parce qu'il est à travers la matière. Il faut pénétrer. Eh bien, celui qui vit dans ces deux mondes simultanément, il a réussi en fait sa vie. C'est ça le peuple juif. C'est de vivre l'intériorité, on appelle le monde du discernement, le chiffre 8, dans le chiffre 7. Comprenez bien que le chiffre 8, en réalité, c'est une unité divine. On l'appelle 8 parce qu'il est juste au-dessus de 7, mais en réalité, c'est l'unité. Je peux donc facilement transformer le 8 en 1. Et les 7 restent 7. Vous vous rappelez le jour de Yom HaKippourim, quand le Kohen Gadol à Moussa il dit Echad, Echad ve'Echad, Echad ve'Shtaim, Echad ve'Shalosh, Echad ve'Arba, Echad ve'Chamesh, Echad ve'Shesh, Echad ve'Sheva. Voilà, nous y sommes. C'est-à-dire qu'en réalité, le Kohen Gadol à Yom HaKippourim, c'est ce qu'il veut nous faire. Faire descendre le 1, et toujours du 1, 1, 1. 1 plus 1 plus 1. 1 plus 1 plus 1 plus 1. Exactement comme on allume les veilleuses de Hanouka. 1. 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'une seule journée qui contient les 8. Et c'est ce que les sages nous disent dans la Gemara. Il n'y avait de quoi allumer un jour Mais en réalité, c'est l'infini. Donc il a allumé les 8. C'est ça la fiole. C'est ça le secret. Et quand tu fais ce secret-là, eh bien, il n'y a qu'à traduire le 1 et le 7 en lettres. Quelle est la lettre qui représente le 1 ? Le Aleph, en hébreu. Quelle est la lettre qui représente le 7 ? Le Zayn. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zayn. Donc vous avez le mot Az. Qu'est-ce que ça veut dire Az ? Alors. Alors quoi ? C'est au futur ou au passé ? Pas du tout, c'est les deux. Az, Sharti. Az, Ashir. Hier j'ai chanté, demain je chanterai. D'ailleurs, quand on est sorti d'Égypte, il est écrit Az, Yashir, Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors Moïse chantera. Alors je ne comprends rien. Ce Az, il est au passé, il est au présent, il est au futur, donc il est hors du temps. Donc c'est très bien, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais vivre dans ce temps, tout en ayant les valeurs de ce qui est hors du temps. C'est ça le Az. Alors là, tu peux chanter, Az Yashir. C'est ça le chant. Et je vais vous raconter un secret. Si tu n'arrives pas à vivre ce degré-là, tu ne peux pas chanter. Car le chant est une expression qui vient de la capacité que tu as à relier les mondes. Et donc tu exprimes quelque chose du très profond, du Aleph, dans le Zman, dans le temps. C'est pour ça que le Zman commence par la lettre Zayn, car c'est le chiffre 7. Et là, nous sommes dans un secret. Parce que même le Kaf-He qui se lève, le 25 qui se lève, 2 et 5, c'est encore 7. C'est-à-dire un jour qui est normal, qui est 7 à sa base, il dévoile le 8. Vous comprenez ? Ça veut dire que Hanouka vient nous éduquer, puisque la racine du mot Hanouka, c'est Chinour. Elle vient m'éduquer à quoi ? Eh bien, cette fête, d'abord, elle est du très loin futur et du très loin passé. C'est-à-dire que c'est une fête qui n'a apparemment pas de position réelle dans notre monde. C'est comme si le monde d'en haut, les valeurs divines ont créé une ambassade et elles sont descendues sur terre ce jour-là, le premier soir de Hanouka. Si vous avez compris ce secret-là, je vous garantis que la première veilleuse de Hanouka, vous allez rester devant pendant au moins une demi-heure à la regarder. C'est d'ailleurs ce que les kabbalistes nous préconisent de faire. C'est de regarder cette lumière, mais maintenant vous savez à quoi penser, c'est pas juste une lumière. C'est en réalité toutes les valeurs de l'infini qui sont maintenant habillées dans cette petite fiole, dans cette petite lumière, pour éclairer ma vie. Parce que je risque d'oublier, je risque de m'endormir, je risque de tomber dans le noir. Et ça, c'est le secret de l'antithèse de cette fête. Qui est l'antithèse de cette fête ? Yavan, la Grèce. C'est pour ça qu'on a un combat contre les Grecs. À Pourim, qui est l'antithèse ? Amalek. Donc on a un combat contre Amalek. Donc chaque fête vient avec son ennemi. Vous comprenez ça ? Ça veut dire qu'à chaque fête, nous avons un ennemi. Donc chaque mois de l'année a un ennemi juré. Donc le mois de Kislev, quel est l'ennemi du mois de Kislev ? Regardez la panique dans laquelle nous sommes. C'est en réalité Yavan. Ah, donc c'est un code, encore un code à décoder. Alors les sages nous ont décodé ce code. Ils nous disent, il y a quatre exils de base dans l'histoire. Et ces quatre exils sont dans une seule phrase. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim et ha-aretz, ve-ha-aretz ha-ita, tohu, va-vohu, ve-choshech al-pnei tehom. Je traduis, tohu, bohu, le noir et les abîmes. Tohu, c'est quoi ?
Babylone.
Ça ressemble à un tohu. Bohu, la perte. Rocher, Yavan, la Grèce. Donc ça tombe bien, la Grèce, synonyme de noir, c'est-à-dire d'oubli. Donc nous tombons, Chas v'Shalom, nous risquons de tomber le mois le plus noir de l'année, même au niveau solaire, du solstice, c'est le noir complet. Il fait tellement nuit qu'il n'y a même pas d'après-midi, qu'il y a le jour et la nuit. Et la nuit est très longue. Mieux encore, vous savez quand est-ce qu'on va commencer à rallonger le temps? Le soir de Hanouka. La première nuit de Hanouka, c'est l'extrémité de la longévité de la nuit et le début de la transformation. En réalité, c'est l'acte de changement. À partir de là, Mosif Veholech. On va rajouter de la lumière. Donc Akadosh Baruch Hu allume ses veilleuses de Hanouka lui aussi, en nous apportant un petit peu plus de soleil chaque jour à partir de ce soir-là. Extraordinaire. Parce que toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de faire, il les fait lui-même à sa manière. Et s'il rajoute de la lumière et qu'il applique la mitzvah, quelle est la signification profonde de la mitzvah de Hanouka? Je viens de vous le dire. C'est de rajouter de la lumière dans ce monde. Or, si le noir c'est l'oubli, qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est le souvenir, c'est la mémoire. Donc plus tu rajoutes de la lumière dans ce monde, plus tu te souviens de ce pourquoi tu as été créé, et quelle est ta source, et quelle est ta nation, et ce que tu es venu faire ici. Et tu ne tombes pas dans ce piège de Yavan qui tire tout vers le bas. Regardez comment on écrit Yavan, la Grèce en hébreu. C'est un petit yud qu'on a tiré, on en a fait un vase, et on l'a tiré encore plus, c'est devenu un nous. Je rigole pas. Ça veut dire qu'en réalité, c'est l'antithèse de la beauté du Beth Amikdash, parce qu'en réalité, il se sert que pour lui-même. C'est l'égoïsme à outrance. Inversez les lettres. Nun, Vav, Yud. Au lieu de Yavan, vous lisez Noi, la beauté. Le Beth Amikdash s'appelle Noyo Shel Olam. C'est l'antithèse, c'est exactement le miroir du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait ces Grecs-là? Sont venus éteindre la lumière, c'est-à-dire enlever la différenciation qu'il y a entre Israël et les nations. Vous savez que dans le parvis du Beth Amikdash, il y avait un petit muret qu'on appelle le Soreg. Eh bien, les Grecs sont venus et l'ont cassé. Qu'est-ce que c'est que ce Soreg? Ce Soreg, c'était tout l'endroit où les nations du monde pouvaient venir, et à partir de cette frontière-là, il n'y avait que Israël. En cassant ce mur-là, qu'est-ce qu'ils ont voulu montrer? Qu'il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'Israël n'a pas de spécificité dans ce monde, qu'Akadosh Baruch Hu n'a jamais eu de peuple élu, qu'on n'a aucun rôle à jouer dans l'histoire. Vous avez une Torah, bon, c'est très sympathique, on va la traduire en grec, et on va la mettre aussi dans nos bibliothèques avec le reste. C'est tous des livres de philosophie, et vous êtes des copains avec nous, et vous êtes tous des Grecs qui s'ignorent, comme aujourd'hui. Vous êtes tous des Américains qui s'ignorent. C'est ce que les États-Unis ont dans la tête. Sachez-le. Vous êtes tous des Américains, seulement vous ne savez pas encore. Mais c'est exactement pareil. Ça veut dire que c'est un ennemi qui est tellement rusé qu'il a l'impression qu'il te laisse. Je vous rappelle que la période, c'est le deuxième temple. Et les Grecs ne détruisent pas le temple. Ils nous disent, mais gardez, il n'y a pas de problème, c'est sympathique. Seulement, on va vous offrir quelque chose. Il n'y a rien qui dépasse ce monde de la nature. On n'est que dans le 7. Le 8, ça n'existe pas. Moralité, cette fête est obligée de corriger ça. Donc, elle est obligée de contenir 8 jours pour justement faire le lien, parce que la Brit Mila d'un bébé, c'est à 8 jours. C'est-à-dire que pendant Hanouka, on est déjà dans le lien, parce que Brit ne veut pas dire couper, mais relier. Donc Brit Mila, c'est relié en réalité par le fait d'avoir enlevé ce qui me gêne, le prépuce. Et les sages de nous dire, 3 choses voulaient annuler les Grecs pendant Hanouka. La Brit Mila, le Rosh Chodesh et l'Imout Torah. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? Nous avons un Rosh Chodesh à Hanouka, obligatoire. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est pour ça qu'on est du 25 et on est, hop, Rosh Chodesh Cheshvan, qui se lève, Tevet. Juste après qu'il se lève, il y a Tevet. Donc nous avons Rosh Chodesh, c'est-à-dire on corrige aussi Rosh Chodesh. Qu'est-ce que c'est Rosh Chodesh? La tête du renouvellement, pas du moi. C'est-à-dire on veut t'empêcher de te renouveler. C'est ça l'angoisse de la Grèce. On t'endort. N'oubliez pas, c'est un mois d'ailleurs, nous disent les Chachamim, où tu as très sommeil, où tu veux dormir la plupart du temps, si on te laisse rien faire, tu dors, tu es tout le temps en position horizontale. C'est pour ça qu'on l'appelle qui se lève. On se demande, qui se lève pendant le mois où tout le monde veut dormir? Seulement ceux qui comprennent ce secret ne s'endorment pas pendant le mois de Kislev. Et ça, c'est le secret. Et bien entendu, l'étude de la Torah qui nous relie naturellement au chiffre 8, puisque la Torah nous vient de l'infini, béni soit-il, c'est-à-dire que ce sont les valeurs de l'infini, donc c'est la prophétie. Et donc nous revenons à ce que nous devons être réellement. Vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai lu tout à l'heure Dela le mispet behon ou Dela le hita'anot behon. Dit la Gemara, pendant les 8 jours de Hanouka, tu n'as pas le droit ni de dire, quand quelqu'un, Chas v'Shalom, quitte ce monde, de commencer à lui faire des discours avant de l'enterrer. Il n'y a pas. Il n'y a pas de espèce. Et il n'y a pas non plus de mortification. Pourquoi? Ben tout simplement parce que tous ces 8 jours sont de l'ordre de la vie. Et toi, tu vas venir mélanger quelque chose qui est de l'ordre de l'inverse de la vie. Tu n'as rien compris. Vous comprenez comment la halakha, elle est naturellement imbriquée dans le sens profond. Mais toi, tu peux juste ouvrir le kitsour sous le khanarour et se dire, tiens, pendant les 8 jours de Hanouka, on n'a pas le droit de se mortifier, donc je ne peux pas jeûner. Très bien, tu es devenu très religieux. Mais tu n'as rien compris, pourquoi? Là, on est en train de vous donner le sens. Parce que tu n'as pas le droit de mélanger une notion de mort dans cette notion qui est complètement la source de la vie. Complètement vivante. Ouais. Ken. Shabbat n'est pas dans le set. C'est la grande erreur des gens. Le Shabbat a deux représentations, deux noms qui le qualifient. Premier, c'est Yom Hashvi. Ça c'est un chiffre, ça c'est le 7, mais après il y a Shabbat. Shabbat c'est pas un chiffre, c'est déjà le 8. Ça veut dire que ton Shabbat, et c'est une très bonne question, tu peux le vivre comme le 7e jour, auquel cas tu n'as rien fait, mais tu peux découvrir le 8 qui se cache dans le 7, et lui s'appelle déjà Shabbat. C'est-à-dire que Shabbat, c'est les chiffres et les lettres. Les chiffres c'est le 7e jour, et la lettre, c'est le 8. Et quand tu mélanges le chiffre et les lettres bien avant Armand, Ken, eh bien en réalité, tu fais le lien entre les mondes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils marchaient vezichram les nazis. Ils nous ont enlevé le nom pour nous laisser des chiffres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils nous ont laissé dans le 7 pour vous faire oublier. Et c'est pour ça qu'en Israël, le jour de la commémoration de la Shoah, Yom HaShoah, on dit le Kol Ish Yesh Shem. On ramène le nom, Yad Vashem. Très important, c'est pas au hasard tout ça. Ça veut dire qu'on veut nous enlever le nom pour nous laisser que dans les chiffres. Et les chiffres, c'est comptabilisé, donc c'est mesuré, sclérosé, fini. Comme celui qui s'est battu avec Yaakov. Comment il s'appelle? Esav. Pourquoi Esav veut tuer Yaakov? Vous savez ce que veut dire le mot Esav en hébreu? Asoui, il est fait. Il est fait, il est mort, il est fait. C'est-à-dire que le combat de Yaakov et de Esav, c'est le combat en réalité de deux frères. Et pas seulement de deux frères, de jumeaux. Le bien et le mal dans ce monde sont tellement ressemblants que tu peux tomber dans le piège. Et il faut savoir comment faire le travail. D'ailleurs, le texte ne nous dit pas qu'il s'est battu avec quelqu'un qui était en dehors de lui. Parce que si vous regardez le texte, il y a marqué « Vaivater Yaakov Levado ». Et alors le narratif nous dit « Vaya avec Ish Imo ». Traduction, un homme s'est battu avec lui-même. C'est-à-dire, pendant que je suis dans une période de noir, d'incertitude, j'ai un combat intérieur entre moi et moi. Quel?
Vous avez dit les Américains...
Quel?
Est-ce que l'Amérique, c'est Esav ou c'est Akbar? Tout ce que c'est, comme dit certains grands rabbins...
C'est Esav. C'est Esav. Tout l'Occident, c'est Esav.
Même l'Amérique. Même si ils se sont battus...
Pas du tout. Esav, c'est le cochon. Il montre toujours des pattes comme s'il était cachère. Parce que les pattes du cochon sont comme les animaux cachères. Mais comme il ne rumine pas à l'intérieur, en réalité c'est un mauvais de dedans et il fait semblant d'être bon. Et tant que tu es, toi, Israël, dans l'embarras, il est content dedans. Parce qu'il veut te tuer dedans. Comme c'est écrit dans Esav. Vayomer Esav Belibo. Esav n'a pas dit clairement. Il a pensé dans son cœur, j'attends que mon père meure et je m'occuperai de mon frère, je vais le tuer. Qui c'est le frère? Yaakov, donc Israël. C'est un combat qui durera jusqu'à quand ce combat? Jusqu'à la fin des temps, puisque le combat il était toute la nuit, jusqu'au lever du jour, rappelez-vous. Ad alot ha-shachar. La nuit c'est l'exil, le lever du jour c'est la Géoula. Ça veut dire que ce combat est en train de se terminer. Mais il faut tenir bon, n'oubliez pas. Et ça veut nous frapper où? Guide ha-naché. Dans l'oubli, oubliez votre spécificité. Ne faites pas la havdala, hamavdil ben kodesh lechol ben Israël la amim. Il n'y a pas de havdala. Et quand il n'y a pas de havdala, il y a la touma. La havdala, c'est la spécificité. C'est ça qui nous donne la tahara. Touma, l'impureté, c'est en réalité l'imperméabilité. Atum. Atum, c'est quelqu'un d'imperméable. Donc tamé, ce n'est pas quelqu'un qui est impur, qui est sale. C'est quelqu'un, tout simplement, que le Kodesh ne peut plus pénétrer. C'est ça la Touma. Et les sages dans la même Gemara, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que les Grecs sont rentrés dans le temple. Vetim ou Kol Hashmanim Shebaechal. Ils ont imperméabilisé toutes les huiles. Écoutez bien, c'est extraordinaire, ça veut dire quoi? Quel était le travail des Grecs? C'est d'enlever le lien, de couper le lien, il n'y a plus de lien avec l'au-delà, il n'y a pas d'au-delà, c'est fini, vous êtes imperméable à toute chose qui nous dépasse. Soyez dans la logique, dans le cartésien, dans le degré humain et plus bas. L'esthétique, tout ce que vous voulez, ça c'est la Grèce. Mais au-delà du 7, il n'y a pas. Il n'y a pas de 8 chez les Grecs. Tout est au niveau du 7. Mais tu peux pousser le 7 jusqu'au plus haut sommet, c'est-à-dire tu dois créer de la philosophie, tu dois créer des choses qui sont très attirantes, très intelligentes, pour montrer comme si c'était un degré divin. Mais en réalité, ce n'est qu'un homme qui parle sans jamais s'arrêter. Philosophia, philosophe. C'est une bouche sans fin. Hein, tu parles. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Puis l'osof. Okay? Alors, Kakadosh Baruch Hu, quel le degré de l'infini? C'est autre chose. Et les sages vous disent, Chokhma Bagoim Ta'amin, il n'y a pas de problème, il y a une sagesse chez les Grecs, il n'y a pas de problème. Mais à condition de garder le lien avec le 8. Si tu coupes, si tu te découpes du 8, si tu bois comme Yaakov boit après ce combat nocturne, c'est un problème. D'ailleurs, jusqu'où il boite? Combien de temps il boite? Jusqu'à être arrivé à un lieu, c'est marqué dans le texte. À Shrem. Quand il arrive à Shrem, il marche normalement. C'est quoi Shrem? Yosef. Autrement dit, Yosef, c'est le guérisseur de Yaakov. C'est pour ça que la paracha de Toldot nous dit « Elle est Toldot Yaakov, Yosef ». C'est-à-dire que si toi, l'ange de Esav, tu voulais tuer Yaakov, où est-ce que tu l'as frappé? Dans l'oubli. Mais en réalité, tu l'as frappé dans l'endroit qui te permet le lien avec la femme pour avoir une descendance. Tout à l'heure, je vous ai traduit « guide hanaché », le nerf de l'oubli, mais ne pas oublier le premier degré, « guide hanachim », le membre des femmes. C'est-à-dire le membre chez l'homme qui fait le lien avec la femme pour donner la vie. Donc moralité, qui a été touché dans le corps de Yaakov? La Brit Mila. C'est là que l'ange de Esav voulait frapper. Et qu'est-ce qu'il voulait frapper dans cette Brit Mila? Pas seulement pour que Yaakov fasse Gamma Brit, pour qu'il n'y ait plus d'avenir, pour qu'il n'y ait plus de lendemain, pour qu'il n'y ait plus d'optimisme, pour que tu sois dans le noir. Moralité, il voulait le frapper dans le rajout. Comment on dit rajouter en hébreu? Yosef. Et c'est au futur ou au présent, Yosef? Au futur. C'est pas motif, c'est Yosef. C'est-à-dire il a toujours un lendemain qui chante. Et en plus de ça, il s'appelle Baal HaChalomot. Il est Poter HaChalomot, bien avant Harry. Poter. Vous savez ce que c'est Poter en hébreu? Poter, Poter, pas Poter. En français, vous avez un problème grave avec les rets et les hêtes. Ça va la main. Bachechou et Hashem Mavechochachou. Poter, non, poter. Poter, c'est en réalité les mêmes lettres que toffer, c'est-à-dire coudre. Ça veut dire que Yosef travaille sur les coutures. Il fait le lien entre deux morceaux de tissu, entre le ciel et la terre. C'est ça, poter chalom. C'est amener un rêve et en faire une réalité. C'est ça, traduire un rêve. C'est pas inventer quelque chose, c'est prendre le rêve et en faire une réalité. C'est pour ça que les sages nous disent, attention à qui tu racontes tes rêves. Parce qu'ils vont selon celui qui t'a donné le lien, parce que c'est lui qui a cousu. C'est vrai? Et lui, il s'appelle Baal HaChalomot, c'est-à-dire le maître de la guérison. Donc si vous voulez guérir, vous devez Yosef. Pourquoi? Parce que Yosef est au futur. Donc vous avez un lendemain, donc vous êtes optimiste. Donc Yosef représente l'optimisme du peuple d'Israël. Et comment il s'appelle selon nos sages par rapport à Esav? Satano, c'est l'Esav, c'est le Satan d'Esav. C'est Esav, quand il dit j'ai un Satan qui me fait peur, c'est qui? Yosef. Extraordinaire. Or Yosef est en valeur numérique 156. Comme par hasard, la même valeur numérique que Sion. C'est-à-dire que le sionisme, c'est le Satan de Esav. Vous comprenez comment c'est tout est lié? Et quand est-ce que Yaakov décide de monter en Israël après 22 ans d'exil?
À la naissance de
Yosef. C'est-à-dire au moment où Yosef est né, le texte nous dit Yaakov décide de monter. C'est-à-dire qu'il est en train de créer la Histadrut Sioniste. À ce moment-là. Et au moment où il monte en Israël, parce que c'est le retour à Sion, Yosef, la même valeur numérique, et ça lui dit non, tu peux pas parler, tu peux pas partir. Laban lui dit non, tu peux pas partir. Ça rend fou tout le monde. Alors comment je vais faire pour partir? Je veux rentrer maintenant. Je veux repartir chez moi. Eh bien, il faut que ce soit avec l'autorisation de Laban. Tant que tu n'as pas l'autorisation de Laban, tu ne peux pas monter. Alors comment on va faire? Parce que Laban ne veut pas. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va intervenir. Il va endormir Laban et Laban va rêver et il va lui dire attention à toi. Si tu touches un cheveu de Yaakov, quand tu vas te réveiller maintenant, tu vas voter à l'ONU pour un État. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En 1948, pareil. On a voté pour un État juif. C'était d'ailleurs le seul vote pour Israël depuis. C'est fini. Et même ce vote-là, vous voulez des petites anecdotes? Dans mon cours Shabbat, j'ai une femme qui est très âgée, une rabbinite, qui me raconte que sa maman était dans le vote. Elle me dit qu'elle a vu deux hommes, un d'entre eux qui s'est endormi pendant le vote, qui était contre. Et pendant le vote, il fallait voter pour ou contre. Le type l'a réveillé, il lui a donné un coup de coude, son copain, il a appuyé sur le bouton alors qu'il voulait dire non. Un de trucs, incroyable, des trucs comme ça, des petits machins qu'on ne sait pas. Pour vous dire qu'en réalité, même ceux qui ont voté pour, ils étaient persuadés que les autres allaient voter non, donc ils se sont dit on va sortir naquis. Finalement, tout le monde s'est embrouillé. Le lendemain, tout le monde a regretté. Qu'est-ce qu'on a fait ? Exactement comme Paro. Une fois qu'il a voté pour, il dit « Ma'asinu ! » Et jusqu'à maintenant, ils sont en train de se manger les doigts de ceux qui ont voté. Okay ? Mais, il y a le patron, nous sommes dans l'équipe gagnante. C'est difficile, certes, parce que nous avons toutes les nations du monde autour de nous. Comme 70 loups nous disent les Chachamim avec une brebis. Ouais. Seulement la brebis maintenant elle a des M16.
Ouais.
Alors les loups ils ont peur, c'est plus le même jeu qu'avant. Vous comprenez ? Akadosh Baruch Hu nous a donné à cette brebis des systèmes que les loups même commencent à avoir peur. Et ça, c'est le secret de cette fête de Hanouka. Hanouka, c'est la fête de la victoire. Nitzachon, vous pouvez me dire comment une famille a combattu et a gagné un empire? C'est impossible, impossible à imaginer. On le dit à la Nissim, vers la Pourkan, Rabbim Biyad Me'atim. Akadosh Baruch Hu est avec nous, Rabota, il ne faut pas oublier Netzach. Ce n'est pas un Nitzachon, la victoire, c'est l'éternité, c'est Akadosh Baruch Hu. Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël ne ment pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter outre mesure. Dans ces périodes noires de l'histoire, difficiles, il suffit d'allumer la Hanoukia. Mais pas seulement allumer une petite bougie chez vous et dire chanter Ma Osur Yeshuaté après manger un beignet. Il faut comprendre ce que vous faites. C'est vous que vous devez allumer. Quand j'allume ma menorah de Hanouka, je dois m'allumer moi-même. Revenir à la lumière, être optimiste. Dans ce noir, quand est-ce que la mitzvah est d'allumer d'ailleurs? Au moment où le soleil se couche. C'est-à-dire au moment où le soleil se couche dans ta vie, où tu ne vois plus clair, tu dois rallumer ta vie, tu dois revenir à l'espoir, à la simcha. Et comment tu allumes? En rajoutant Mosif Veoler, Yosef. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes ici dans un message très clair. Nous devons faire en sorte de combattre, de gagner ce fameux grec qui est à l'intérieur de nous et qui essaye de nous perturber toute la journée. Et durant ce mois de Kislev. Et une fois que tu as battu ce grec, je termine. Qui étaient les acteurs d'Israël? Comment ils s'appelaient? Chashmonaïm. Vous entendez encore le mot? Shemen, Shmoné, Chet, Shmonaïm. Tout est à base de 8. C'est bizarre. C'est-à-dire que les 8 ont gagné, les 7 qui voulaient annuler le 8. Donc les Chashmonaïm sont rentrés dans le temple. Et le temple était complètement saccagé, Rome souillé. Et pourtant, ils ont trouvé une fiole, enfin une petite, il n'y a pas parce qu'elle est petite. Je sais que les Français, ils aiment tout le petit. Bonjour ma petite bain, tu veux un petit café, tu veux un petit croissant. Tout est petit chez les Français. Il n'y a pas marqué petit. Ils ont trouvé une fiole. Okay. Tout est petit. Arrêtez, grandissez. Okay. Ils ont trouvé une fiole. Une fiole. C'est-à-dire, ils ont trouvé l'unité. Shemen. De quoi? Du Shmoné. C'est-à-dire le chiffre 8. Shaya Khatoum qui était encore scellé par le sceau du Kohen Gadol. Qui c'est le Kohen Gadol? Akadosh Baruch. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé en réalité, ces Hashmonaïm? Ils ont trouvé tout simplement l'étincelle divine qui ne pourra jamais être souillée. Qu'aucun grec dans ce monde ne pourra souiller. La preuve, ils ont essayé, ils sont rentrés, ils ont tout souillé. Comment se fait-il qu'il reste cette fiole? Parce qu'en réalité, il y a un degré que nos ennemis ne pourront jamais annuler. C'est cette fiole-là. mais à condition, batku. Les Chachamim disent dans la Gemara, batku. Il faut vérifier pour rentrer. Ça veut dire que notre travail, c'est de revenir, de réintégrer notre temple. Pas seulement le temple de Jérusalem, ton temple intérieur. Je dois revenir vers Yoël, vers moi-même, pour savoir qui je suis dans mon identité. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je vais trouver ? Automatiquement, une fiole. Et de cette fiole-là, qu'est-ce que je fais ? Je peux rallumer ma vie complètement. Ça, c'est le message de Hanouka. Rentrer dans cette période-là, avec espoir, avec simcha, malgré toutes les turbulences que nous sommes en train de vivre, et je vous l'ai déjà dit. Vous savez pourquoi c'est aussi compliqué maintenant ? Parce que comme les juifs du monde veulent monter en Israël, pour que l'équilibre reste le même, imaginez-vous qu'il fait mauvais là-bas et qu'il fait bon vivre ici. Eh bien, tout le monde vient. Alors, dès que là-bas, ça devient mauvais, Akadosh Baruch Hu lève la difficulté ici pour que l'équilibre reste pareil. Vous comprenez ? Ça veut dire que ceux qui ont levé leurs valises en France, ils l'ont redéposé parce qu'ils ont entendu ce qui s'est passé hier et aujourd'hui. C'est comme ça que ça marche. Pour que le choix reste toujours à 100%, tu choisisses ta vie et venir vivre avec ton peuple, avec ta nation. Et arrêter de croire que le judaïsme est une religion. C'est une nation. C'est avec cette lumière-là qu'on rallume les 8 degrés, ces 8 jours de Hanouka qui sont en réalité l'éducation et la véritable éducation de notre vie. Ça que ça merde. Alors, il y a